quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux politiques patrimoniales. Aujourd'hui, le patrimoine de l'islam en France. Pour évoquer hier les métiers du patrimoine, nous vous proposons ce matin un écho à la journée d'études qui s'est tenue lundi au Louvre sur les arts de l'islam en France et sur le patrimoine islamique. Une journée d'études très attendue car elle participe à un ensemble de travaux qui réévalue les échanges culturels mais aussi les échanges commerciaux entre Europe occidentale et monde musulman au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Nous serons donc ce matin avec Yannick Lins, qui est directrice des arts de l'islam au Louvre et qui a organisé cette journée d'études, avec Catherine Richarté et avec Roland-Pierre Guéraud. Ils seront tous les deux en duplex depuis les studios de Radio France à Aix, France Bleu Provence, avec à la technique Magali Marien. Catherine Richarté est archéologue et ingénieure de recherche à l'INRAP et membre du SIAM de Lyon, et Roland-Pierre Guéraud est historien et archéologue, membre associé du laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée. Ils sont tous les deux des auteurs d'un livre paru l'année dernière, Héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne, publié à La Découverte avec l'aide justement de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Bonjour à vous à Aix, Catherine Richarté, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Roland-Pierre Guéraud, merci d'être avec nous également depuis Aix. Bonjour. Et bonjour à vous, Yannick Lins. Je vais vous donner la parole en premier. Je disais que c'était un colloque, une journée d'études très attendue. Très attendue d'abord parce qu'elle avait été reportée.
Oui, effectivement, elle était programmée le 6 juin dernier, et le 6 juin dernier, tous les Parisiens s'en souviennent, et d'autres aussi, nous étions menacés par les crues de la Seine et en train d'évacuer nos œuvres, donc obligés, effectivement.
Vous avez passé 48 heures à déménager vos œuvres des arts de l'islam, c'est ça?
Voilà, donc nous avons décidé au milieu de la nuit de reporter le colloque à la rentrée.
Voilà, et ce colloque était très attendu aussi parce que, d'une certaine façon, il inaugure, en tout cas pour vous au Louvre et pour les arts de l'islam au Louvre, il inaugure une série de rencontres, de colloques, peut-être même l'instauration d'une sorte de réseau que vous souhaitez, Yannick Lins, pour mieux comprendre justement la place de cet art de l'islam dans les collections publiques françaises en particulier.
Oui, tout à fait. Je pense que les temps compliqués que nous vivons actuellement en France et au niveau international sur cette question de l'islam et, je dirais, toutes les ambiguïtés et les préjugés aussi qu'on peut y avoir m'amènent à me dire qu'il faut absolument que l'on puisse mieux connaître sur le plan culturel cet héritage du patrimoine islamique. Je pense que nombreux sont les personnes qui n'imaginent pas que dans notre héritage chrétien européen et dans notre héritage laïque de la Troisième République, l'art islamique était au cœur, en tout cas, de la constitution de notre patrimoine national. Et je pense que c'est important de mettre en œuvre dans les mois et les années qui viennent une meilleure connaissance de cette question.
Alors cette journée d'études de lundi dernier donc était une sorte de point de départ, on va en parler avec les autres participants à cette discussion, une sorte de point de départ. Qu'est-ce que vous escomptez justement pour l'avenir, Yannick Lins, justement dans ce domaine d'une meilleure connaissance de ce patrimoine islamique en France?
Alors je dirais que le rôle de nous conservateurs du patrimoine, et je dis patrimoine au sens large, effectivement musées mais aussi monuments historiques, églises, archéologie, c'est de mieux connaître et de mieux identifier ce patrimoine. On en a une certaine connaissance, on peut en établir une cartographie avec, je dirais, 200 villes en France où on identifie de l'art islamique, mais il faut que entre professionnels on puisse s'organiser organisée pour davantage identifier ce patrimoine. Et bien sûr, une fois qu'on l'identifie, il s'agit aussi, à travers des expositions, à travers des conférences en région, à Paris, de mieux faire connaître ce patrimoine et son histoire.
Mmh. Et comment il est arrivé, d'une certaine façon, dans nos musées, mais aussi dans nos églises, ce qui est assez étonnant. Donc, vous avez déjà commencé une sorte de cartographie, donc à Roanne, à Moulins, à Figeac, à Agen, à Auch, ou encore à Dijon, à Montbard, ou à Sens, ou à Bar-le-Duc, on peut trouver dans des musées ou dans des lieux déjà une partie de ce patrimoine islamique. Dans les églises, c'est un peu surprenant, Yannick Lins.
Oui, et en même temps, ça nous renvoie à l'époque médiévale, puisque c'est à cette époque-là, en général, que les trésors d'église, qui étaient les lieux à la fois de célébration des saints et des reliques, c'était aussi, d'une certaine manière, dès le XIe, XIIe siècle, les premiers musées, d'une certaine manière. Et donc, les évêques, les abbés étaient très friands de très beaux objets d'art. Et donc, dans cette envie d'avoir de belles collections, l'art islamique, qui était sans doute un des arts les plus brillants de cette époque-là en Méditerranée, en Égypte, par exemple, avec les magnifiques objets en cristal de roche, ou bien en Espagne, avec les magnifiques textiles de l'Espagne musulmane au sud de Cordoue, faisait le bonheur de ces hommes d'église, collectionneurs, voilà.
Et c'est ce que Avinoam Chalem de l'Université Columbia de New York est venu vous dire dans ce colloque de lundi dernier, donc sur ces trésors médiévaux pour écrire des histoires. Mais il y avait aussi bien d'autres façons d'approcher ce patrimoine donc musulman, islamique en France, et en particulier il y a l'archéologie. Alors Catherine Richartet et Roland-Pierre Guéraud, vous êtes avec nous depuis les studio de Radio France à Aix, et cette archéologie réserve, on le sait en écoutant par exemple Carbone 14, l'émission de Vincent Charpentier sur France Culture, donc chaque week-end, réserve des surprises. On a vu récemment des découvertes à Nîmes de trois tombes dont on dit qu'elles sont des tombes de musulmans situées entre le 7e et le 9e siècle, et donc inhumées à Nîmes dans cette période de temps. Et on se dit à chaque fois, eh bien, ces nouvelles découvertes modifient peut-être, Catherine Richartet, l'image que l'on se fait de la présence de musulmans sur le sol métropolitain.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est encore très très loin d'avoir une vision exhaustive de tout ce qu'il y a, puisque les découvertes se font au cours des travaux archéologiques, et du coup, bon, c'est en lien avec l'actualité archéologique.
Bien sûr.
Mais effectivement, on commence à pouvoir dresser une image de ce qui est retrouvé, et de cette présence, effectivement.
Parce qu'on s'y intéresse aussi, d'une certaine façon, Roland-Pierre Guéraud, parce que peut-être le regard a-t-il changé. Je disais que ce colloque était très attendu. Il y avait donc des présences de personnalités à ce colloque de lundi, en particulier Jean-Pierre Chevènement, qui est chargé donc de cette fondation sur l'islam voulue par le gouvernement actuel. Et donc, on voit bien qu'il y a une attente, peut-être un regard différent, une attention plus importante vis-à-vis de ce patrimoine qui était peut-être négligé auparavant, Roland-Pierre Guéraud ?
Oui, je pense qu'il était négligé parce que dans le domaine de l'archéologie, même l'archéologie médiévale était négligée.
Oui.
L'archéologie médiévale est née dans les années 70,
oui,
la fin des années 60, donc assez tardivement. Si on parle de la véritable archéologie, entre guillemets, c'est-à-dire celle des fouilles ou des analyses de monuments, par l'analyse des matériaux, des reprises d'appareils, etc. Et donc, en ce qui concerne le monde islamique, il y a eu deux phases. Une première phase, justement dans les années 70-80, qui était liée au problème pétrolier, donc un intérêt, parce que de toute façon, les États ont toujours des intérêts très précis.
Oui.
Donc un développement des études arabes dans ces périodes-là. Et actuellement, c'est lié au terrorisme. Mmh. On a des créations, ce qui est très bien d'ailleurs, d'enseignement à la fac, qui sont quand même liées au mouvement salafiste, djihadiste, etc. Donc on est assez loin de nos préoccupations, mais quelque part il y a toujours des retombées.
Et il y a un écho d'une certaine façon, pourrait-on dire.
Oui, il y a un écho, parce que il y a de plus en plus la divulgation, disons, d'une autre interprétation de l'histoire culturelle de l'Europe. Une remise un peu en perspective de ce que nous étions nous-mêmes. Mm-hmm. Parce qu'il est clair, par exemple, que, bon, pour moi c'est un peu schématique de dire ça, mais la bascule occidentale se fait vers le XIIIe siècle.
Mais qu'est-ce que vous appelez la bascule occidentale?
Ben, c'est au XIIIe siècle, visiblement, l'Aragon, le Gênes, Venise commencent à prendre une importance beaucoup plus grande à la fois au Maghreb et au Proche-Orient.
Oui.
Et ils sont acteurs, alors qu'avant ils étaient davantage consommateurs, mm-hmm. en quelque sorte, récepteurs, disons. D'une part, d'autre part, il y a un affaiblissement relatif dans ces périodes-là de certains domaines pays islamiques, disons. Mm-hmm. D'avoir une grande formation, notamment à l'époque mamelouk, c'est-à-dire au XIVe, XVe siècle pour l'essentiel, avec un apogée avant la peste noire. Mm-hmm. Le Caire est au début du XIVe, de loin la plus grande ville du bassin méditerranéen, ce qu'elle était également à l'époque fatimide au XIe siècle.
Mm-hmm. Donc voilà. vous parlez de cette bascule qui est importante effectivement parce que les siècles dont on parle sont des siècles qui sont le 7e, 8e, 9e, 10e siècle où effectivement Catherine Richarté les traces de la présence disons d'une culture islamique ou du monde arabo-musulman sur notre territoire, sur nos côtes en particulier, sont assez nombreuses pour pouvoir être étudiées par vous, par exemple, Catherine Richarté, en tant qu'archéologue.
Oui, elles sont nombreuses si effectivement on prend le temps de les décrypter, ce qui n'avait pas été fait ce qui avait un peu été fait par le passé, et elles se matérialisent essentiellement par des vestiges du type céramique ou effectivement inhumation, voire même parfois des éléments architectoniques. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle est quand même, c'est une présence qui est quand même assez ténue. Et qu'on s'efforce de mettre en évidence, en tout cas, c'est d'actualité, effectivement.
Vous le faites, par exemple, dans Héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne, et où certains se posent la question, par exemple, de savoir à quel moment et si, dans la ville de Marseille, il y avait des commerçants musulmans. Est-ce qu'on a la trace? Est-ce qu'il y a des relations entre ces commerçants musulmans et les commerçants chrétiens ou juifs qui se trouvaient sur ce même territoire à la fin du Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe ou XVe siècle? Roland-Pierre Guéraud, ce sont des questions qu'on peut se poser en tous les cas, qui n'ont pas toujours de réponse, mais qui sont des questions importantes.
Exactement, il n'y a pas toujours de réponse, mais on peut se poser la question, notamment en ce qui concerne Marseille, sans faire erreur de ma part, on a un comptoir à Bougie. Il n'est pas interdit de penser qu'il y a une réciprocité qui a lieu, parce que je ne vois pas très bien un commerce à sens unique.
Oui.
Comme ça a été le cas pendant la période coloniale. Donc, ça peut expliquer certaines inhumations, à propos desquelles on n'a pas toujours la documentation sous la main, parce qu'il y a des choses qui ont été trouvées au XIXe siècle, et bon, on ne sait même plus où elles sont. Mmh. On a des gravures mal reproduites, c'est-à-dire un texte arabe, une épigraphie arabe relevée par un non-arabisant. Mmh. En général, c'est assez inutile.
Effectivement. Mais malgré tout.
On a même ça dans la description de l'Égypte. Si vous voyez des planches de monuments mamelouks, par exemple, il y a des frises épigraphiques. Bon, on a dessiné des lettres qu'on ne comprend pas, et donc on a fait des dessins, quoi, mais pas de l'épigraphie.
Oui, parce que tout de même, Catherine Richartet, ce qui est important dans cette histoire, c'est à la fois de repérer ces traces qui sont nombreuses, ces navires marchands, par exemple, sur lesquels vous avez travaillé, qui ont été coulés, qui ont disparu au large de nos côtes, que ça soit à Marseille même, que ça soit un peu plus loin du côté du massif des Morts. En tout cas, il y a là le signe qu'il y avait du commerce et pas simplement de la guerre, parce que ce qui est important dans cette discussion que nous avons, c'est qu'on a toujours su effectivement qu'il y avait des combats, des conflits de religion ou de territoire entre ces deux religions, la religion chrétienne et la religion musulmane. Mais ce que vous semblez dire, c'est qu'aujourd'hui vous orientez vers à la fois l'existence et la confortation, pourrait-on dire, de ces affrontements, mais de l'autre côté aussi la possibilité que malgré ces affrontements, on continue à faire du commerce, à se rencontrer, à négocier ensemble, et qu'il y a des routes de commerce qui passent au large de nos côtes et qui peut-être s'y arrêtent même, Catherine Richartet.
Oui, tout à fait. En fait, le conflit, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, on peut tout à fait continuer à avoir des activités commerciales. Ça, cela n'empêche pas. Mais il est exact, et je crois qu'il est d'actualité aujourd'hui, de dire qu'il y a une véritable dynamique en Méditerranée. Et cette dynamique, on commence donc à la décrypter également à l'intérieur des terres, avec l'épigraphie, puisque nous avons des stèles funéraires, hein, pour ce qui concerne le domaine funéraire, des inhumations, donc vous parliez de celle du 8e, et donc nous en avons également au 12e siècle, 12e, 13e siècle à Marseille. Mmh. Alors, est-ce que l'on peut les mettre en relation avec le fameux quartier des potiers de Sainte-Barbe qui avait été découvert dans les années 90? Ça reste encore une question, mais rien n'empêche de formuler l'hypothèse. Et puis, effectivement, il y a toute la culture matérielle, les mobiliers céramiques, dont sont chargées ces épaves, qui nous permettent de tracer effectivement des routes commerciales assez fiables aujourd'hui.
ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا على صبكم يا حاكمين ترفقوا ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا يحاذر أن يشكو إليكم ويشفقوا ولا تتلفوا بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفقوا
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et une fabrique de l'histoire consacrée aujourd'hui, quatrième volet de notre série consacrée au patrimoine et aux politiques patrimoniales. Nous arrêtons aujourd'hui à la question du patrimoine islamique en France, les arts de l'islam. Où peut-on trouver justement ces arts de l'islam, et en particulier à cause d'une journée d'études qui a eu lieu lundi dernier. Donc au Louvre, Yannick Lins, vous en étiez l'organisatrice. Vous avez bien écouté ce que disaient depuis Aix nos autres correspondants qui étaient à la fois présents à votre colloque, mais qui continuent leur propre travail sur l'archéologie, justement, des mondes musulmans. Et cela vous fait réfléchir, d'une certaine façon, à cette question commerce, conflit. Comment peut-on trouver la bonne distance sur ces rapports, en particulier à l'époque médiévale, entre des gens qui se sont pourtant constamment fait la guerre?
Oui, alors ils se sont fait la guerre, mais je pense que les témoignages matériels, que ce soit par le patrimoine archéologique ou par quelques chefs-d'œuvre de cette aristocratie médiévale du Proche-Orient visible aujourd'hui au Louvre, à travers des superbes bassins de métal précieux incrustés, etc., nous montrent, comme souvent, que l'histoire est plus nuancée et que
plus complexe.
Voilà, et que il y a eu tout une tradition pour écrire cette histoire de l'affrontement de civilisations, les croisades étant le symbole. Mais on voit bien que l'importance, par exemple, sociale des communautés chrétiennes ou juives dans ces régions, au Moyen-Âge en particulier, de gens qui profitent, qui sont très riches et qui profitent notamment des routes commerciales qui viennent de l'Asie, de la Chine et qui passe par ces régions, en fait une société beaucoup plus éclectique qu'on imagine, multiculturelle, multireligieuse, et que les traces, je dirais, patrimoniales qui nous sont arrivées jusqu'à nous, jusqu'à nos musées, témoignent de ces échanges culturels et commerciaux intenses, au-delà des conflits réels, mais qui étaient plus politiques. Finalement, au bout d'un moment, que religieux.
Alors, Catherine Richartet, vous avez travaillé sur des bateaux coulés donc au large des côtes françaises en Méditerranée, donc entre la Provence et le Var, dans ces régions-là. Et ces bateaux-là comportent, d'après votre travail, des signes justement de ces échanges commerciaux. En particulier, ce sont des épaves du Haut Moyen-Âge. Elles sont datées de quelle période environ, Catherine Richartet?
Alors actuellement, donc, on est en capacité de dire qu'elles sont fin du 9e, 10e siècle.
Il y en a quatre, c'est ça?
Elles avaient été un peu rapidement datées du 11e siècle, enfin. Et du coup, bon, là, on peut un petit peu les vieillir, si je puis dire.
Fin du 9e siècle, qui correspond aussi à la présence, dans cet endroit que nous connaissons bien, qui s'appelle la gare de Fresnay, la présence d'une communauté musulmane de gens de mer. Ça s'appelait Fraxinets, façon prononciation catalane. Fraxinets, donc, et cet endroit était un endroit, effectivement, où il y avait une implantation qui a duré combien de temps? On le sait exactement, Catherine Richartet, un peu plus d'un siècle,
oui,
un peu moins d'un siècle.
On sait plus ou moins, en tout cas, c'est ce que nous donnent plus ou moins les textes, mais on a des informations sur cette occupation. Ils auraient occupé les rivages provençaux pendant plus d'un siècle. Mais on n'a pas complètement le lien entre ces navires et cet établissement, effectivement, de gens d'Al-Andalus et d'Almeria, vraisemblablement. On a très peu de traces, les textes sont assez peu disert et du coup, j'essaie effectivement de voir quels sont les éléments qui permettent de mettre en lien ces navires et cette communauté. Pour l'instant, les traces sont assez faibles. On aurait peut-être une production de céramique qui aurait été fabriquée dans le massif des Maures et qui se trouve à l'intérieur de ces épaves.
Mmh. Et dans ces épaves, on trouve en revanche, en grand nombre, des grandes dolias, donc des grands réservoirs d'environ 1000 litres, des jarres, des vases à filtre, des amphores, des bouteilles à garum, donc dans lesquelles on stockait donc ces épices, enfin ce liquide qui permettait ce condiment qui permettait de relever les plats, des pichets, etc., qui sont présents et qui dans ces épaves montrent en tout cas qu'il y a commerce qui passe par le large de la Provence et qui peut-être s'y arrête.
Oui, tout à fait. On commence à avoir des traces, notamment à Marseille, de ces produits qui sont apportés visiblement par cabotage, vraisemblablement. Mmh. Et nous avons un exemplaire à Marseille d'une cruche qui, vraisemblablement, est la même que celle qui se trouve à l'intérieur de ces bateaux. L'aspect novateur de ce travail, enfin en tout cas qui renouvelle les données, c'est justement le fait que ces vases ne voyagent pas à vide, mais qu'ils sont pleins de denrées biologiques.
Oui, parce qu'on a réussi à analyser scientifiquement ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Alors peut-être du fromage dans certains vases, peut-être, en tout cas, tous ces vases sont emplis de pois de conifères pour protéger. Il y avait du vin blanc, il y avait du vin rouge et également ce fameux garum. Enfin, on essaye de comprendre ce qui était transporté dans toutes ces épaves. Qui sont des épaves donc dont les récipients étaient pleins de quelque chose, en tous les cas, Catherine Richartet.
Oui, complètement. Ils sont pleins. Ce ne sont pas seulement des pièces céramiques qui sont chargées dans les bateaux. Les dolias, comme vous le disiez, sont de très gros conteneurs. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on peut émettre l'hypothèse que ces dolias étaient amarrés dans les bateaux,
en poste fixe,
ça c'est vraiment une nouveauté, bon, qu'il va falloir démontrer très précisément, mais je crois qu'on est sur de bonnes pistes. Et effectivement, ce qui serait intéressant maintenant, ce serait de tracer, si je puis dire, la provenance de ces différents produits.
Mmh. Parce qu'on peut dire, Roland-Pierre Garot, que en fait, de l'Aquitaine à la Provence, la France méditerranéenne était une zone de contact assez large, justement, avec ce monde arabo-musulman et en particulier avec cette Andalousie musulmane.
Oui, effectivement. De toute façon, il y a plusieurs bémols à mettre sur la guerre entre l'islam et la chrétienté, parce que ça n'existe pas encore vraiment. Il y a eu la vague du djihad, de la conquête, au sens strict du terme, et puis le ressac. Bon. Et puis après, ça s'est stabilisé. Et puis je prendrais même un exemple très célèbre, le Cid. Lorsque le Cid fait la conquête de Valence, il fait la conquête au bénéfice d'un émir musulman. Mmh. Il ne s'agit pas de la reconquista à ce moment-là. Bon. Et il y a toujours une imbrication de l'ensemble de la Méditerranée du Nord, concurrentielle ou bien liée, c'est-à-dire les grandes villes, Valence, Barcelone, Gênes, Marseille, Montpellier. Venise est moins concernée par l'Occident, mais malgré tout, elle joue un rôle. Et donc, il y a ces villes occidentales qui sont concurrentielles et qui font du commerce avec le Maghreb, parce que c'est ce qui est en face, mais avec l'Orient très tôt.
Oui, vous dites dans un texte que vous avez écrit, Roland-Pierre Guéraud, que analyser le monde islamique, c'est analyser un vieux voisin sans les filtres de l'exotisme.
Oui, c'est ce que moi je dis à mes étudiants, parce que, les étudiants que j'avais quand j'étais en activité, si vous voulez, on a trop encore d'encrassement dû à l'orientalisme. Bon, l'orientalisme, j'ai rien contre, j'aime bien la peinture orientaliste, ce genre de choses, mais c'est pas scientifique, là, il faut pas mélanger les genres. Et en fait, les sociétés musulmanes ont leurs propres caractéristiques, mais globalement, elles fonctionnent un peu comme les nôtres. Mmh. Et en général, on sait très bien, même à l'époque des croisades, il y avait le plus souvent, lorsqu'ils ont été installés, les seigneurs francs entretenaient de bonnes relations, disons, avec leurs voisins musulmans. Il a fallu l'arrivée de Nour ed-Din et puis après de Saladin, avec une idée de reconquête, jusqu'à Qalaoun, un sultan mamelouk qui a fini par nettoyer, entre guillemets, les recoins encore occupés par les Francs en Syrie-Palestine. Mm-hmm. Mais après, il s'est très bien entendu avec les pays occidentaux. Notamment les mamelouks, qui sont une société basée sur des esclaves promus aux hautes fonctions et au pouvoir. Ces mamelouks, je pense, étaient importés depuis la mer Noire, depuis Kaffa, par les Génois.
Oui, très souvent, en tout cas, c'était le cas. Mais d'une certaine façon, une des questions, Yannick Lin, c'est dans un de ses textes, Roland-Pierre Guéraud dit l'idéologie n'a pas de place dans cette histoire. Alors, on comprend bien effectivement que un certain type d'idéologie n'a pas de place, mais on peut se demander, parce qu'on baigne dans ces idées aujourd'hui de réconciliation, rapprochement entre ces populations, puisqu'elles vivent sur le même sol actuellement. Donc les musulmans et les chrétiens, par exemple, ou les musulmans et les laïcs, et on peut se demander s'il n'y a pas tout de même une sorte d'idéologie du vivre ensemble qui serait à l'œuvre. Et la présence à votre colloque de Jean-Pierre Chevènement, mais aussi de représentants du ministère de l'Intérieur, laisse entendre que ça n'est pas simplement un travail seulement scientifique. Il y a la volonté qu'à travers ce travail scientifique, on parvienne peut-être à autre chose dans cette meilleure compréhension, mais aussi dans ce rapprochement entre ces différentes religions.
Alors, vous parlez d'idéologie dans un sens, c'est-à-dire à la fois sur cette guerre de civilisation. Absolument. Qu'on essaye de nous raconter, et puis sur le vivre ensemble.
La conviviencia.
Voilà, moi je dirais qu'au niveau d'un musée, on est a priori pas dans la politique, on est dans la tentative à partir d'une connaissance scientifique rigoureuse et de données comme celle de Roland-Pierre Guéraud ou d'autres qui travaillent sur ces terrains, de diffuser, je dirais, cette culture et cette connaissance sans parti pris. Mais c'est vrai que si on part simplement des témoignages historiques et culturels, sans faire d'idéologie, on peut raconter une histoire.
Roland-Pierre Guéraud, sur ce point.
Oui, moi je trouve exactement la définition. Alors l'idéologie, bon, c'est un vieux débat parce que on a tous une idéologie, mais elle est plus ou moins pesante, plus ou moins déformante. Donc c'est comme l'objectivité. On va pas discuter pendant des heures sur l'objectivité.
Non, on l'a beaucoup
on
fait.
On a toujours l'aspect subjectif dans ce qu'on dit. Mais il faut essayer de faire avancer les choses. Je voudrais, si vous le permettez, juste revenir sur un point qui me semble essentiel, en fait, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. On a trouvé des sépultures musulmanes. Bon. Pour le moment, l'explication n'est pas totalement donnée de la raison pour laquelle il y a ces sépultures. Il ne faut pas s'embringuer forcément dans une histoire de conflit à propos de celle de Nîmes. Mais moi, ce que je vois, c'est que on a aussi trouvé des stèles funéraires à Montpellier, à Sorède. Or, ces stèles étaient visibles. C'est-à-dire, et là, c'est plutôt, ça concerne les médiévistes français, à la limite, repenser ce qu'était la ville dans le midi de la France, parce qu'il y avait visiblement dans certains cimetières des carrés ou en tout cas des tombes musulmanes. Et la population et l'Église en étaient totalement informées. Au même titre, d'ailleurs, qu'il y avait des tombes juives.
Oui, d'ailleurs, il faudrait relire encore le travail formidable. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En tous les cas, je ne sais pas s'il est contesté ou pas, mais de Yuval sur deux peuples en son sein, qui montre l'imbrication des communautés juives dans les villes médiévales occidentales. Absolument. Avec les communautés chrétiennes qui sont côte à côte, mais non pas ghettoisées comme on l'a souvent imaginé, mais totalement imbriquées avec des portions de synagogues qui sont entrer dans des quartiers chrétiens et donc avec un échange plus fréquent que qu'on pouvait le penser jusqu'alors entre les religions et les rites en particulier.
Absolument. Mais l'histoire a une chronologie. Ça paraît bizarre de le rappeler, mais justement, il y a un tas d'études qui sont faites sur la naissance des ghettos. Il n'y avait pas de ghetto à l'origine.
Et donc, effectivement, ce pourquoi vous plaidez, c'est pour réimaginer la ville médiévale différemment de l'idée que l'on en a habituellement. C'est cela. Et Catherine Richarté, vous êtes d'accord sur ce point ?
Tout à fait. Et pour aller dans le même sens, et pour montrer la complexité des relations, justement, entre les différentes religions à l'intérieur des cités, on peut même rajouter que les tombes qui ont été trouvées à Marseille, qui sont au nombre de 8, et dont je vous parlais tout à l'heure, donc ont été retrouvés à proximité de la chapelle du Saint-Sépulcre. Donc, et pour continuer également, celles de Montpellier, elles ne sont que, enfin, ce ne sont que des stèles en fait, ce ne sont pas des inhumations, mais elles ont été retrouvées à proximité, enfin non loin de l'église Sainte-Anne. Mmh. Donc, quels sont les rapports qu'il y a entre musulmans et chrétiens pour qu'on permette d'introduire des carrés musulmans, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, au sein donc de...
Au sein même des communautés chrétiennes.
De communautés, oui, voilà, chrétiennes, tout à fait.
Et c'est une véritable question. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait d'un reportage de France Culture dans l'émission Les Îles de France. La productrice en était Simone Douek et l'interviewée était Marie-Jeanne Dumont. C'est à la mosquée de Paris, c'est en 1988, une description de cette mosquée de Paris.
Voilà donc le plan un peu compliqué de cette mosquée. L'idée de faire une mosquée à Paris remontait en fait assez loin au 19e siècle. Il y a un comité s'était formé pour dans l'idée de construire une mosquée et n'avait pas recueilli beaucoup d'enthousiasme de la part des pouvoirs publics. Et en fait l'idée est repartie juste après la guerre de 14-18 parce que les Français se sont émus du fait que 100 000 musulmans étaient morts pendant la guerre pour la France. Et donc, juste après-guerre, la mosquée a pu être construite très rapidement. Donc ça, c'est l'époque où Lyoté lançait au Maroc son grand programme d'urbanisation. Et donc, il avait emmené des équipes d'architectes au Maroc. Il y avait donc plusieurs dizaines d'architectes qui connaissaient bien l'architecture marocaine. Et ils ont essayé de refaire ici une reconstitution archéologique presque minutieuse et exacte d'une mosquée marocaine, en l'occurrence une mosquée de Fès. Alors c'est un plan un peu compliqué qu'on a adapté ici pour mettre non seulement la mosquée, son patio, mais aussi le logement du moufti et de l'imam, des autorités ecclésiastiques, l'institut des salles de conférence, un institut musulman qui était un peu une sorte de centre culturel, et puis aussi un café maure, un hammam qui occupe le bas de la parcelle, un petit souk sur un côté, d'autres petits commerces. Donc tout un ensemble qui a été conçu de façon très fragmentée avec des jardins, des salles, beaucoup de petits murets qui font qu'on ne voit pas un peu les limites de cet ensemble et on a l'impression d'être tout à fait dans un quartier marocain.
Dans une ville, je dirais presque, une petite ville,
oui,
une petite cité.
Au centre de Fès, voilà. Alors ici, donc, non seulement le Maroc a fourni l'inspiration, mais il a fourni aussi les artisans et la plupart des matériaux. Ici, par exemple, tous les murs sont revêtus de cette sorte de marqueterie de petits morceaux de faïence qui forment des réseaux géométriques étoilés et qu'au Maroc, on appelle zellige. Et au-dessus, il y a une frise aussi très richement décorée qui est en plâtre fouillée au couteau dans le plâtre frais pour faire ces motifs d'arabesque. D'autres pays du Maghreb ont fourni d'autres matériaux, et par exemple tout le bois de cèdre qui forme les menuiseries, la charpente, les portes, ça vient de la forêt de Batna en Algérie. Donc ici par exemple, on voit cette porte aussi avec ses réseaux de polygones étoilés qui sont une des marques de l'art islamique. La Tunisie, elle, a fourni les carreaux de céramique pour le hammam. Mais il y a aussi des éléments qui sont un peu hétérodoxes, comme ces colonnes dont la mosaïque fait plutôt penser aux villes balnéaires, à l'architecture balnéaire française.
Voilà donc un extrait de ces émissions de France Culture, Les Îles de France à la mosquée de Paris, c'était en 1988, une émission donc produite par Simone Douek et Marie-Jeanne Dumont avec cette description de la mosquée de Paris construite après la Première Guerre mondiale, mais avec des artisans venant de Fès et du Maroc. Il y a effectivement, pour sauter du Moyen-Âge dont nous parlions avec nos deux autres invités, Catherine Richartet et Roland-Pierre Guéraud à l'instant même, Yannick Lins, il y a aussi un autre temps, pourrait-on dire, de l'intérêt pour l'islam, c'est évidemment le temps de la colonisation. Et ce temps-là se retrouve dans les collections publiques, des musées et d'autres endroits en France.
Oui, alors c'est l'époque moderne, je dirais, qui démarre au siècle des Lumières avec ces voyageurs qui vont vers l'Orient jusqu'à la Chine et qui commencent aussi, c'est l'époque des grandes découvertes archéologiques jusqu'alors inconnues, des sites de Mésopotamie ou d'Iran, et forcément de manière plus générale sur cette découverte des cultures. Donc notre héritage aujourd'hui, c'est aussi le résultat résultats de ces échanges diplomatiques des empires coloniaux européens avec les empires ottomans, safavides, chinois, etc., qui nous amènent effectivement aujourd'hui la mémoire de ces échanges diplomatiques, commerciaux, avec forcément une particularité, puisqu'on entendait la référence à la mosquée de Paris, la question de l'Afrique du Nord est tout à fait particulière aussi dans cet héritage. Et d'ailleurs, on a finalement peu de patrimoine d'Afrique du Nord dans nos collections, puisque les Français ont créé les musées sur place pour le conserver. Mais en tout cas, n'oublions pas la richesse des relations avec l'Empire ottoman, l'Iran safavide ou Qadjar, l'Inde moghole, voilà, qui nous apporte aussi cette mémoire.
Avec une particularité qui était présente dans le colloque donc, que vous avez organisé au Louvre lundi dernier, autour des arts de l'islam en France, c'est aussi le goût, on parlait tout à l'heure d'orientalisme, le goût des collectionneurs privés. Il y a des collectionneurs, en l'occurrence il y avait une communication sur Niort, mais on peut trouver dans d'autres endroits de France des collectionneurs privés qui, au 19e siècle, vont s'intéresser à cet art islamique.
Oui, alors c'est pour moi l'héritage de la Troisième République dans tous ses aspects culturels. Et comme l'évoquait Roland Pierre, celle du fameux mouvement dit orientaliste de la fin du 19e et du début du 20e. Donc c'est vrai que cet orientalisme, c'est une histoire du goût aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la connaît assez bien pour ce qui est de la haute bourgeoisie parisienne qui s'est pris de passion pour ces objets, et c'est grâce à leurs dons et à leurs legs que le département des arts de l'islam est si riche aujourd'hui. Mais on connaît beaucoup moins bien finalement comment ce goût pour l'Orient ou pour les objets curieux venant d'Orient se diffusait en province, comme on dit, si on veut reprendre le vocable du 19e. Et c'est vrai que de s'intéresser à ces collections des petites villes que vous évoquiez pour certaines, mais qui sont beaucoup plus nombreuses dans tous les départements de France, c'est aussi réécrire une histoire de cette petite bourgeoisie locale qui, sans venir à Paris ou sans être en contact avec des marchands à Damas ou au Caire, achetait chez les antiquaires de Lyon pour des bourgeois de Dijon, par exemple. Donc il y avait aussi cet intérêt qui allait dans les petites villes de province à ce moment-là.
Mais sans compter les militaires, évidemment, Pierre Loti, d'ailleurs, sur lequel l'historien Sylvain Venner publie ces jours-ci un ouvrage, évidemment Pierre Loti, mais tout un tas d'autres militaires qui, ayant eu affaire avec les territoires donc musulmans ou arabo-musulmans, eh bien, ramènent des choses de ces endroits-là et en dotent leurs collections privés qui deviennent parfois des collections publiques.
Oui,
Yannick Lins.
Oui, oui, tout à fait. Alors, on en a de magnifiques exemples pas assez connus au musée de l'armée, où il y a dans les réserves des trésors.
Alors, il y a même des chevaux, un arrachement de chevaux de la fin du XVIIIe siècle, datant de la bataille des pyramides, en fait, ramené au moment de la bataille des pyramides au musée de l'armée.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ces objets donnés par des militaires, c'est qu'en général, on a de manière très détaillée dans les archives des musées les circonstances de découverte où on peut parler parfois de butin de guerre, puisqu'on sait précisément, pour l'exemple que vous venez de citer, d'un magnifique harnachement de Mamelouk pris en 1798, sur le champ de bataille, voilà. Mais on a beaucoup d'autres exemples aussi dans des musées en région, comme à Besançon, où on voit qu'il y a eu un don d'un militaire passé à Damas au début du XXe siècle. Donc ça renvoie aussi à toute cette armée d'Orient qui effectivement ramenait, passionné par ce qu'il voyait et par ses trésors, les ramenait chez eux.
Et puis dans ce travail que vous menez, qui est un travail de collectage, de recollection, pourrait-on dire, de tout ce qu'il y a de cette présence de l'art de l'islam en France. J'imagine qu'il y a des bonnes surprises, mais il y a aussi tout ce travail que vous devez faire de présence ou de reprise de certains éléments de l'art islamique dans des ouvrages qui n'ont rien à voir avec cela, par exemple, dans des œuvres qui n'ont rien à voir avec cela, Yannick Lins.
Oui, et on se rend compte que mener cette enquête finalement du patrimoine islamique en France, c'est d'une certaine manière aussi être amené à se poser la question finalement, qu'est-ce que l'art islamique ? Puisque, pour revenir quelques instants sur les trésors médiévaux d'église, on voit bien que beaucoup de ces œuvres sont en fait des œuvres recombinées, je dirais, qui peuvent être au départ, je prends l'exemple d'une magnifique aiguière en cristal de roche qui vient des collections royales au département, qui était un cristal de roche fabriqué par les Fatimides au Xe siècle et qui a été, je dirais, retransformé avec un cabochon en or par les Occidentaux. Donc c'est vrai qu'on peut parler d'objets mixtes, puisqu'on se réattribue ces objets pour en transformer, en faire des objets d'art occidentaux. Mais on peut aussi, quand on regarde ces collections, se poser la question de cette frontière de l'art islamique par rapport à la question de l'ethnographie, parce qu'on voit, on voit par exemple dans ces collections des vêtements, des souvenirs, beaucoup d'anciens fonctionnaires de l'Empire colonial en Afrique du Nord qui laissent effectivement en don souvent dans leur musée de leur ville d'origine leurs souvenirs marocains ou leurs souvenirs algériens. Et on est parfois plus proche de l'ethnographie que de l'art au sens l'art des princes.
Ça veut dire qu'il faut faire un travail effectivement de dissociation, considérer qu'il y a des arts de l'islam, savoir ce qui relève justement de la question de la religion musulmane, et des arts conçus dans les régions où l'islam était majoritaire aussi, Yannick Lin, j'imagine.
Tout à fait.
Et faire la distinction.
Oui, et on se rend bien compte par le retour des visiteurs qu'on a dans notre département que finalement il y a une énorme ambiguïté sur ce qu'on appelle l'art islamique. On y introduit effectivement cette notion de religion, alors que c'est la question de l'islam simplement au sens culturel du terme. Mmh. Donc ça permet aussi à travers ces enquêtes et puis j'espère les nombreux moments de rencontre avec le public, de rentrer dans ces débats et dans ces discussions.
Roland-Pierre Guéraud, vous vouliez intervenir ?
Oui, excusez-moi. C'est juste pour la définition des termes, mais bon, là, c'est un point de vue personnel. Moi, je préfère utiliser islamique, effectivement, dans le sens culturel. Mmh. Et alors que, bon, ça a été fait par le passé, on a parlé de l'art arabe, de l'art musulman. Bon. Simplement parce que cette société est multiculturelle. D'abord, multiculturelle parce qu'elle recouvre un espace énorme et donc il y a des traditions locales qui sont... c'est du tricot parce que en Syrie, vous avez plusieurs traditions et après, vous avez la tradition syrienne globale qui s'installe, qui contribue à la fabrication de cet art islamique. Et également, d'un point de vue culturel, alors religieux, c'est un monde où il y a des musulmans, bien sûr, et c'est eux qui ont le pouvoir. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des zoroastriens qui n'ont pas été exécutés parce qu'ils ne sont pas agents du livre. Et il y a également quand même le fait qu'il faut prendre en compte que des pays comme l'Égypte et l'ensemble syro-palestinien, mmh, reste à majorité chrétienne jusqu'au XIIIe, XIVe siècle.
Et que effectivement, il y a aussi des différences entre un art d'un islam chiite, par exemple, et un art d'un islam sunnite, Yannick Lin.
Oui, et j'aimerais comparer à l'histoire de l'art occidental. Imaginez que sous le vocable art islamique, on puisse résumer un seul type d'art religieux. C'est comme si on résumait l'histoire de l'art européenne du Moyen-Âge à l'époque des Lumières en un art chrétien. Donc c'est vrai que cette histoire de l'art est faite de toute une série de nuances liées au territoire territoire, liées aux cultures sunnites ou chiites, et d'autres nuances encore qu'il faudrait introduire.
Alors, vous nous avez introduit à cette question de ces nuances, en l'occurrence, tous les trois, Catherine Richarté, Roland-Pierre Guéraud et vous, Yannick Lins. Ceux qui nous ont écoutés, qui seraient passionnés par cette question et qui se diraient, tiens, j'ai envie d'en savoir plus, il n'y aura pas d'acte de cette journée d'études dont nous avons parlé lundi dernier au Louvre, mais on pourra voir bientôt les vidéos, les interventions de chacun, j'imagine.
Oui, on ne fait pas d'acte dans la mesure où c'était une journée d'études et de lancement où la parole était aussi, je dirais, très libre et les échanges avec le public. Donc, j'ai pensé que de le mettre en ligne sur le site du Louvre, louvre.fr, était une manière effectivement de le diffuser de manière plus large et plus ouverte.
Et ça sera tout bientôt donc sur le site du Louvre. Et puis il faut signaler votre excellent travail collectif avec Jean-Michel Poisson, Catherine Richarté et Roland-Pierre Guéraud, mais tous ceux qui ont participé à ce très beau livre, donc coédité par La Découverte et l'INRAP, c'était il y a 2 ans. Et puis on peut aussi, Roland-Pierre Guéraud et Catherine Richarté, saluer le remarquable travail qui a été mené de concert, et là aussi dirigé par Jocelyne Naclia et Bernard Vincent, sur les musulmans dans l'histoire de l'Europe.
Tout à fait.
Merci à tous, en tous les cas, d'avoir participé à cette émission d'ouverture, cette émission de clôture de notre série consacrée aux politiques patrimoniales. Et on voit bien combien, effectivement, ce terme de politique patrimoniale peut s'appliquer au sujet qui est le nôtre. C'est de la politique patrimoniale, en l'occurrence, que de savoir ce qu'il y a dans ces collections, Yannick Lins.
Oui, c'est mener un inventaire au sens patrimonial du terme.
Merci à tous et à toutes. Donc, et demain, nous traiterons d'un tout autre sujet, puisque nous parlerons, comme beaucoup d'autres émissions de France Culture, de la vie intellectuelle à l'occasion de la sortie d'un excellent et remarquable ouvrage aux éditions du Seuil en 2 tomes sur la vie intellectuelle en France depuis la Révolution française. Régulièrement, Yannick Lins, pour ne pas réduire l'espace de l'art de l'islam au simple bassin méditerranéen. Une musique choisie par Anne Fleury, notre réalisatrice, une musique du Baloutchistan. C'est un air galandari, un air de l'extase, donc à la viole. Et ça fait partie aussi du patrimoine enregistré, puisque ce sont les disques Okora de Radio France qui ont enregistré ce disque en 1992. Saluons tout ce travail qui a été fait en ethnomusicologie par Okora ou encore par la Maison des Cultures du Monde et leurs collections inédites qui font partie là aussi de ce grand patrimoine de l'art, des arts de l'islam. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et par Francesca Fossati. Magali Marien était à la technique à France Bleu Provence et Stéphane Poitevin ici à Paris à la Maison de Radio France et Anne Fleury à la réalisation. Et je précise le titre du livre donc dirigé par Jocelyne Daclia et Bernard Vincent, Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, et c'est aux éditions Albin Michel, tandis que à la découverte, héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne, c'est le titre de ce livre.